Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour, Mathieu. Pourquoi déjà?
Parce qu'on a eu quatre pieds de neige.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein? Puis elle était lourde à déneiger, je peux vous le dire. Parce que moi, j'ai ma terrasse où j'habite, je vous le dis, là, il y a un mauvais sort. Il n'y a pas de neige chez les autres terrasses, mais la mienne, il y en a. Hein?
C'est parce que tes voisins pelletent et l'envoient sur ta terrasse.
Probablement, livre limeux. Ben justement, puisqu'on parle de météo, rapidement, je vais vous dire que la neige intermittente et de la pluie se poursuivent au sud, dans le sud du Québec, le centre du Québec, capitale nationale, le nord du Québec, ainsi que en Ontario. Mais bon, les températures de 1 à 3 degrés au-dessus de zéro pour le Québec et de 5 à 8 degrés pour l'Ontario. Dans l'est du Québec, c'est du soleil. Neige intermittente et pluie, possibilité d'averses à Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse. Là, il fait encore un petit peu plus chaud aussi. On va de 4 à 5, 8 degrés même. Du soleil dans l'ouest du pays, 6 à 9, et puis de la pluie sur la côte ouest. Salut à mes chroniqueurs, chroniqueuses. Bonjour, bonjour, Serge Bradette, comment ça va?
Très bien, Denis Martin, toi-même.
Très bien.
Et Isabelle.
Et Isabelle au téléphone, comment ça va?
Ça va bien, bonjour.
Oui. Hey, on parle de quoi aujourd'hui, Isabelle?
On va parler de la nourriture des hommes des cavernes. Oui. On va un petit peu... un terme, c'est pas un terme scientifique, là, mais les hommes préhistoriques, est-ce qu'on on se pose la question, est-ce qu'ils mangeaient seulement de la viande, comme certains régimes veulent nous faire croire?
Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ceux qui, les hommes préhistoriques de notre génération, eux autres, ils mangent du McDonald's, semble-t-il. Bon, OK.
Ça non plus, c'est pas très bon pour la santé.
Non, puis peut-être pas très scientifique comme commentaire, mais ouais. C'est une bonne blague. Serge, tu nous parles de quoi?
Oui, ben c'est un sujet que je garde depuis l'hiver dernier que j'avais trouvé. C'est les chiens de traîneau.
Ah
oui? Ben oui, alors, puis là, durant l'été, je peux pas parler de ça, c'était pas le temps. Mais là, quand j'ai vu hier, la belle neige, je dis, oh, hey, les chiens de traîneau en plein dans le mille. Alors, je vous parle de ça.
Ah oui, puis moi, mon chien était content hier de la neige. Ah, qu'il était content! Il a fait la fête, le chasse-neige. Il était tout blanc, finalement, mon chien, hier. Ben, c'est comme ça. Eux autres, ils ont le plaisir du moment présent. Ça nous apprend des affaires, les chiens.
Oui, oui, oui.
Il y a une autre chronique aujourd'hui. On va parler des nouvelles qui touchent le Canada francophone. Et je vais recevoir en entrevue Laurence Anne, qui est directrice artistique de Côte d'Accès, qui nous présente un spectacle qui s'appelle « Troubles et méandres » à l'espace bleu de l'édifice Welder. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de... Ah, qu'est-ce que le penseur et la porte de l'enfer ont en commun? Ben, c'est l'anniversaire, ça aurait été l'anniversaire d'Auguste Rodin, 1840. C'est un petit peu vieux aujourd'hui, sculpteur français. Et puis, ben bon, hein, on va peut-être parler de celle qui était qui est devenue princesse de Monaco après son mariage avec le prince Rainier III. Elle est morte le 14 septembre 82 à Monaco. Alors là, je pense qu'on pense savoir qu'il s'agit, toi tu le sais.
Grace Kelly.
Grace Kelly, qui est venue au monde en 1929, morte en 1982, donc actrice états-unienne. Et puis c'est l'anniversaire de naissance de Neil Young, auteur, compositeur, interprète canadien, puis une grande figure hein, du monde rock folk. Ah, c'est la journée mondiale de la pneumonie. Ah, c'est pour sensibiliser les gens à la vaccination et l'amélioration des traitements pour lutter contre cette maladie. Quand même, moi, mon père est mort de pneumonie. Ah. Il était vieux, puis à un moment donné, quand ils prennent plein de maladies, ça va là. À cœur la journée mondiale de lutte contre la laryngite, j'aimerais ça être le porte-parole. Le porte-parole. Bon, OK, j'arrête mes blagues. 1960 aurait été l'anniversaire de Morane, hein, cette grande chanteuse belge qui est décédée le 7 mai 2018. Une chanteuse à la voix chaleureuse et expressive. Puis je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait peut-être le fun de l'entendre. On l'écoute.
Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer.
Ah oui, Morane, Morane. Donc, qui a repris une chanson de Jacques Brel. En fait, je rappelle aussi qu'en 1988, elle a repris le rôle de la serveuse automate, hein, la serveuse Marie-Jeanne dans, moi, je dirais plutôt l'opéra rock, Starmania. Et puis, bon, elle est morte, on le rappelle, elle est morte en 2018, dans des circonstances suspecte, mais il y a eu enquête, puis on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Sa fille dit qu'elle a fait une chute. C'est-à-dire, on avait peut-être quelque chose à dire sur Grace Kelly, dont s'arrêtait l'anniversaire de naissance aujourd'hui.
Ben oui. C'est que Grace Kelly a été une des actrices préférées d'Alfred Hitchcock.
Ah ben oui!
Ouais. Et même, une fois qu'elle est devenue princesse de Monaco, elle a eu ses trois enfants, et là, Hitchcock l'a approchée et voulait, voulait qu'elle refasse un retour à l'écran. Et elle a commencé par accepter, ça l'intéressait, mais là, il y a eu un mouvement à Monaco, dirait une autre princesse, là, sur les écrans de cinéma, c'est passé, on veut pas ça, tout ça. Alors, elle avait renoncé, finalement.
Quelle histoire triste. Ben, c'est le temps d'aller faire un petit tour maintenant dans les actualités. La presse plus aujourd'hui, ben, je pense que je vous surprendrais si j'en parlais pas. ou théâtre à la Société de transport de Montréal, le syndicat des employés d'entretien suspend sa grève dès ce matin. Cette décision met fin à un débrayage qui aura duré un peu moins de 2 semaines. Le service de métro et d'autobus reprend donc du service aujourd'hui, au grand soulagement des usagers. Selon le syndicat, la suspension est une manœuvre pour éviter l'application devancée par Québec de la loi 14 qui aurait pu forcer la reprise du travail sous conditions. Le président syndical a d'ailleurs accusé le gouvernement de donner des arguments à la STM pour rester figé à la table des négociations. La direction de la STM s'est dite heureuse de redonner le service à sa clientèle et a réitéré sa volonté de poursuivre les négociations. À noter que d'autres syndicats de la STM envisagent toujours des moyens de pression, notamment celui des chauffeurs et chauffeuses d'autobus et opérateurs et opératrices de métro qui prévoient une grève ce week-end, grève qui pourrait faire en sorte qu'il n'y aurait aucun service pendant 48 heures. Un sondage maintenant en une du Journal de Montréal. Le gouvernement caquiste est en pleine crise de confiance, selon un sondage léger, le Journal de Montréal, TVA, révélant une insatisfaction historique envers le premier ministre François Legault. L'insatisfaction personnelle du premier ministre atteint un record de 71%, 7 Québécois sur 10. C'est un niveau sans précédent, aussi de 61% des Québécois qui souhaitent désormais son départ. Ces résultats sont attribués au sentiment général que la province va mal et à la perception que le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion publique face aux médecins. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Sur le plan des intentions de vote, la coalition Avenir Québec stagne en troisième position avec seulement 17 % des appuis. En tête, le Parti québécois demeure premier avec 32 % mais voit sa lancée freinée par une perte de 4 points. Le Parti libéral du Québec, de son côté, remonte et talonne maintenant le PQ à 27 % des intentions de vote. Quant à Québec solidaire, la formation recueille 14 % des appuis. Mais justement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce sondage démontre que le gouvernement Legault aurait perdu la bataille de l'opinion publique concernant sa réforme du mode de rémunération des médecins. Alors, ce même sondage révèle un fort désaccord populaire. Selon le sondeur Jean-Marc Léger, 47 % des Québécois et Québécoises sont en désaccord avec la loi 2 imposée par le ministre Christian Dubé. Seulement 18 % des gens croient que cette réforme, qui gèle la rémunération et impose des cibles de performance, améliorera le service de santé. De plus, une très forte majorité, soit 73 % des Québécois et Québécoises, craignent que cette réforme ne provoque un exode des médecins vers d'autres provinces. Je termine avec une nouvelle maintenant du Devoir. Les médecins spécialistes essuient un revers devant les tribunaux dans leur contestation de la loi 2, la loi spéciale sur la rémunération. La Fédération des médecins spécialistes du Québec cherchait à obtenir un jugement pour clarifier l'interprétation des sanctions pénales, craignant qu'elles visent les médecins quittant la profession ou la province. Le procureur général avait pourtant assuré que ce n'était pas le cas. Toutefois, le juge Pierre Nollet a refusé de trancher, estimant qu'un tel jugement ne ferait que donner une simple opinion et ne réglerait pas le fond du différend. La Fédération des médecins spécialistes maintient que sa contestation sur les aspects de la loi qu'elle juge inconstitutionnelle.
Pour partir, entre nous c'est pas normal. On ne voit plus le printemps, on ne sent plus les fleurs. On ne fait que fixer le temps quand on a peur. Si on pouvait apprendre à danser la nuit et se laisser surprendre à rêver sous la pluie. Que fixer le temps quand on a peur. Si on pouvait apprendre à danser la nuit et se laisser surprendre à rêver sous la pluie. Et pourquoi pas s'étendre et boire à la vie, de ne plus rien dépendre et danser la nuit.
Marc Dupré, Danser la nuit.
Ouais, juste avant d'aller à Isabelle et de parler d'Homme des cavernes, il y a une dernière heure, hein, Epstein a allégué que, monsieur, que le président Trump était au courant de ces crimes selon des courriels qui ont été révélés par les, des députés, des membres du Congrès des États-Unis. Alors, à suivre. Bon, ben, on va aller parler d'Homme des cavernes maintenant, Isabelle.
Ouais, ça change pas beaucoup de sujets, finalement, on parle de...
Ben, je ne peux pas ne pas en parler, ça vient de sortir, puis je pense que Trump va devoir se dépatouiller beaucoup là-dedans, là, parce que ça fait longtemps qu'il nie plein de choses, puis ouais, alors...
Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et donc, justement, puisqu'on parle d'hommes préhistoriques, j'ai trouvé un article, c'est sur un magazine web Veg News, et donc c'est une version traduite, évidemment, je ne vais pas vous en parler en anglais. Donc, la traduction, non, les hommes préhistoriques ne mangeaient pas que de la viande selon de nouvelles preuves. Et c'est paru le 3 novembre 2025 sous la plume de Charlotte Poynting. Et donc, des recherches récentes révèlent que les premiers humains n'étaient pas de grands consommateurs de viande, contrairement à ce que prétendent certaines tendances sur les réseaux sociaux. Nos ancêtres dépendaient fortement des plantes pour se nourrir. Aujourd'hui, les régimes alimentaires dits ancestraux connaissent un véritable regain de popularité, notamment grâce aux réseaux sociaux. Selon les algorithmes qui façonnent vos fils d'actualité, vous avez peut-être déjà vu passer des contenus qui vantent les mérites des régimes carnivores, paléo. Ouais. Il y a même un régime dit du lion. Chacun de ces régimes a ses propres règles et particularités, mais... ils ont tous un point commun, la viande.
Ben, Isabelle, je t'interromps. Là, moi, quand je vois des gens, là, des influenceurs, influenceuses, me parler de régime, de médicaments miracles, tu sais où est-ce que ça se retrouve, hein? À la
ben
poubelle.
Oui, ben, quand c'est miracle, c'est jamais...
Ouais, donc, on s'entend là-dessus.
Exactement, tout à fait. Quand même, pour beaucoup, cette tendance repose sur l'idée que les humains du paléolithique se nourrissaient principalement de viande, que notre corps a évolué pour manger comme eux et que les régimes modernes ne nous conviennent pas. Et, d'une certaine manière, cette idée-là contient une part de vérité parce que de nombreuses études montrent que les aliments ultra transformés, pauvres en nutriments, sont néfastes pour notre santé, donc cette fameuse alimentation moderne. Mais c'est une erreur de conclure que manger principalement de la viande soit une meilleure solution. Et en réalité, selon, donc je le disais, un nombre croissant d'études, c'est pas comme ça que se nourrissaient les premiers humains. Les régimes alimentaires primitifs comportaient une grande quantité de plantes. Bien sûr, les premiers humains consommaient de la viande. Les Néandertaliens, tout comme Homo sapiens, étaient des prédateurs et se nourrissaient de différentes parties d'animaux. La viande, oui, mais la graisse, même les os. Et les asticots aussi qui étaient présents dans la viande quand elle n'était pas de première fraîcheur.
Oh, j'ai une image mentale.
Mais leur alimentation ne se limitait pas à ça. Des recherches suggèrent que le régime alimentaire des Néandertaliens comprenait aussi une grande variété d'autres éléments, des noix comme les pistaches, des pois sauvages, des glands, des tubercules, des olives, de la camomille, des lentilles. Une diversité qui montre bien qu'ils n'étaient pas des vipères carnivores. Et selon Hervé Boschrens, qui est responsable du groupe de recherche en biologie à l'Université de Tübingen en Allemagne, ils ne pouvaient pas survivre uniquement en se nourrissant de viande s'ils avaient une physiologie similaire à celle des humains modernes, ce qui est probable. Ils auraient eu besoin de sources d'énergie alimentaire variées. Et les experts savent aujourd'hui que les Néandertaliens consommaient probablement une quantité importante de végétaux. Les preuves sont là. Des restes découverts dans les grottes, de la plaque dentaire, des excréments fossilisés, tous contiennent des résidus de plantes. Et ça paraît logique. La chasse n'était pas toujours fructueuse. Alors, certains jours, on trouvait de la viande, d'autres non. Et en attendant, on se nourrissait de ce que la nature avait à offrir. Emma Pomeroy, qui est docteur en philosophie à l'Université de Cambridge, le résume comme suit, on a cette image des hommes préhistoriques, et il s'agit généralement d'hommes, on dit toujours les hommes des cavernes, mais il y avait des femmes aussi dans ces cavernes-là. Une image qui se nourrissait presque exclusivement de viande et ne consommait rien d'autre, mais pour la plupart des humains, ce n'était pas le cas. Comme les Néandertaliens, les premiers Homo sapiens ne pouvaient pas survivre en se nourrissant seulement de viande, contrairement à ce que certains défenseurs modernes du régime carnivore pourraient affirmer. Les recherches suggèrent vraiment que nos ancêtres n'étaient pas des chasseurs suffisamment habiles pour maintenir un tel régime. Il se nourrissait souvent de carcasses abandonnées par d'autres prédateurs, d'où probablement la source d'asticots, mais ils complétaient leur alimentation avec des fruits, des graines, des tubercules. Alors, est-ce que cette fameuse tendance des influenceurs qui prônent une alimentation riche en viande pourrait s'inverser? Bien, on dit que les régimes carnivores stricts comportent des risques réels, notamment des carences nutritionnelles. On a posé la question à Angel Look, qui est diététicienne, et elle l'a expliqué, donc, dans un régime carnivore strict où aucun animal végétal, aliment végétal, n'est autorisé, l'organisme est privé de phytonutriments qui nous protègent, entre autres, du cancer et de nombreuses maladies chroniques. Mmh. Et ces phytonutriments se trouvent exclusivement dans les plantes.
Alors non, pas dans les asticots?
Mais non, malheureusement. Et heureusement, ben justement, en réponse à la question, certaines figures influentes du mouvement commencent à s'éloigner d'une alimentation exclusivement carnée. Le Liver King, ça c'est quelqu'un qui est présent, qui prônait l'alimentation du lion, je pense. Par exemple, donc lui, il inclut désormais des aliments d'origine végétale dans son régime. Et l'année dernière, le docteur Paul Saladino, qui est auteur d'un livre « The Carnivore Code », donc le code carnivore, a abandonné ce régime-là après avoir ressenti des symptômes désagréables comme des palpitations cardiaques. Alors, en concluant, on peut dire que pour l'instant, on peut affirmer sans risque de se tromper que les dangers potentiels pour la santé sont bien plus importants que les possibilités d'amélioration avec ce genre de régime.
Puis au moins, dans un régime vegan, il n'y a pas d'asticots, je peux vous le garantir.
Non, effectivement.
Ah, quelle horreur!
Mais quoi que parfois, dans la farine, hein, on peut retrouver des petites bêtes si on ne fait pas attention.
Oui, ça, il faut toujours faire attention à ça. Ouais.
Mais voilà.
Quelques brèves à ce moment-ci?
Oui, en fait, c'est une brève. Je pensais que j'en avais plus qu'une, mais bon. Je trouve ça vraiment intéressant. Et là, on est dans un tout autre sujet complètement, parce que je crois pas que les hommes préhistoriques consommaient de la bière. Mais peut-être, en fait, je sais pas à quel moment s'est apparue la première fermentation menant à de l'alcool. Mais donc, c'est la microbrasserie Charlevoix qui vient d'ajouter une distinction majeure à son palmarès. Sa bière emblématique, la Flacatoun. Juste le nom, j'adore ça. A remporté le titre de bière championne toutes catégories confondues à la Canada Beer Cup 2025. Donc, c'est pas juste un prix québécois, là, c'est dans tout le Canada. Et ça, c'est un prestigieux concours national qui réunit chaque année les meilleures bières du pays. La Flacatoun est brassée depuis 20 ans et elle s'est démarquée parmi plus de 1800 bières, cidres et emballages. Là, je sais pas c'est pourquoi qu'on met des emballages dans la même catégorie que les cidres et les bières, c'est pas expliqué. Mais tout ça a été évalué par un jury international composé d'experts venus d'Allemagne, de Belgique, d'Écosse, du Mexique, des États-Unis et du Canada. Et la brasserie charlevoisienne ne s'est pas arrêtée là parce que la Flacatoun a aussi remporté l'or dans la catégorie ale belge et française. Et la Vache Folle ESB, qui est une autre des bières de la brasserie, a décroché le bronze dans la catégorie bitter et pale ale de style anglais.
Wow.
Et donc, c'est une brasserie qui a été fondée à la fin des années 1990 et la microbrasserie Charlevoix s'est imposée comme une des pionnières du mouvement brassicole artisanal québécois. Et si jamais vous avez jamais goûté à la Flacatoun, c'est une bière inspirée des ales belges.
Ouais.
Et elle est aujourd'hui considérée comme un classique de la scène brassicole québécoise.
Ben, on va se prendre une petite toune, puis on s'en va vers une chanson, puis on revient.
Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre,
vous donnez-moi ma chance.
La plus belle aventure, le plus beau voyage. oiseaux magiques.
Vous allez.
Laissez-moi vous suivre.
Vous qui venez vers d'autres vies, laissez-moi vivre le bleu de la vie.
La joie d'être libre sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel.
Ne partez pas sans moi, c'est une chanson de Star Academy.
Oui, hey Serge, tu avais quelque chose à dire sur l'homme des cavernes?
Ben oui,
pour faire suite à ce que disait Isabelle.
Ben oui, c'était un petit. Pendant qu'Isabelle parlait, j'ai vu ça dans ma revue, ça m'intéresse l'histoire. C'était dans Néandertal à la plage de Sylvana Condémy et Jean-François Mondeau aux éditions du Monde. Alors, eux affirment Néandertal était cannibale, point. Des chercheurs ont repéré sur des os humains de plusieurs sites des traces de découpe similaires à celles pratiquées sur les animaux pour prélever la chair, la moelle et la cervelle. Alors, reste à savoir si le cannibalisme était un acte rituel ou alimentaire.
Bon, après les asticots, le cannibalisme, on va continuer après notre petite pause de 2 minutes.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Quand tu dors près de ton mari, pour la 300 000e fois, ne t'arrive-t-il pas des fois de rêver qu'il est quelqu'un d'autre? Et quand tu roules dans son lit en miaulant comme un jeune chat, n'espères-tu pas quelquefois que Tarzan est derrière la porte? Dans la grande forêt, forêt vierge de l'amour, il t'emporte avec lui, et de source en cascade il t'enlève en poussant son grand cri. Tu t'accroches à ses hanches tellement fort que tes veines en sont bleues. Quelle vacance, quelle chance, tu es belle et Tarzan est heureux. 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 Quand tu dors près de ton mari et que ton plaisir ne vient pas, ne t'arrive-t-il pas des fois de rêver qu'il est quelqu'un d'autre? Et quand tu vogues dans la nuit au vent de son plaisir à lui, pour atteindre le paradis, tu rêves que Tarzan t'emporte. Dans la grande forêt, forêt vierge de l'amour, il t'emporte avec lui, et de source en cascade il t'enlève en poussant son grand cri. Tu t'accroches à ses hanches tellement fort que tes veines en sont bleues. Quelle vacances, quelle chance, tu es belle et Tarzan est
Tarzan est heureux. Et Tarzan est heureux. Et Tarzan est heureux. Et Tarzan est heureux. Dans la grande forêt, forêt vierge de l'amour, il t'emporte avec lui. Dans l'espace, il t'enlace, il t'embrasse en poussant son grand cri. Vos corps planent dans les lianes près du fleuve étrange et dangereux. Quelles vacances, quelle chance, tu es belle et Tarzan est heureux. Et Tarzan est heureux.
Tarzan est heureux.
Ouais.
C'est une chanson de Serge Lama.
Un bon choix musical, n'est-ce pas, Isabelle et Serge?
Absolument, absolument.
D'ailleurs, on reste dans la thématique de l'homme des cavernes.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, je demandais à Mathieu de nous faire jouer quelque chose, un cri.
Ah
et
oui?
Et vous me direz si ça vous dit quelque chose, Mathieu.
Allons-y. Non, je vais vous dire d'emblée, avec mes problèmes de la régie, je pense que je n'essayerai pas le cri de Tarzan ce matin.
Pourriez-vous nommer le Tarzan, l'acteur qui incarnait Tarzan?
Ensuite, c'est un ténor, c'est clair.
Il y en a eu plusieurs, mais lui, il est connu. Là. Johnny...
Westmiller.
Westmiller, oui, exactement. Ouais, ouais.
Wow. Alors, on entendait Jane aussi.
Jane, puis après ça, il y a eu le petit garçon, mais je sais pas, je pense qu'on l'a pas
entendu. On l'a pas entendu.
Non, les... Sur la vidéo, on voyait le petit garçon qui s'apprêtait à crier lui aussi.
Oui, mais il n'avait pas encore développé le cri. Le cri primaire.
Alors,
donc on vient d'apprendre qui faisait ces beaux cris-là.
Ouais. Alors, M. Westmiller s'est d'abord illustré comme nageur sous une fausse identité, imaginez-vous. C'est pas fin,
ah,
ça.
Ah oui?
Oui, 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 le coquin. Le jeune homme était né en Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui a été démantelé en 1918 après la première Guerre mondiale. Alors, il est né en 1904 dans cet empire-là et il a émigré aux États-Unis et il veut à tout prix conquérir pour sa terre d'accueil les États-Unis lors des Jeux olympiques de Paris de 1924. Pour ce faire, il lui manque la nationalité américaine indispensable. Déterminé, Johnny décide d'emprunter l'identité de son frère cadet, né au pays de l'oncle Sam, lui. Aux Jeux olympiques de Paris, il remporte 3 médailles d'or et attire l'attention de la presse, qu'il décrit comme « invincible ». Le champion obtient la nationalité américaine, remporte 2 nouvelles médailles d'or aux Jeux olympiques de 1928, puis prend sa retraite sportive pour se consacrer à son autre passion, le cinéma.
Oui, d'aller d'une liane à l'autre. Mm-hmm. Bon, OK. Là, on va aller dans des circonstances un petit peu plus, comment je pourrais dire... qui a plus rapport à ce qu'on vit présentement.
Absolument,
les traîneaux de chiens. En passant, j'ai essayé avec mon petit chien qui est un Yorkshire, je l'ai attaché sur un traîneau, puis il m'a regardé, mais non, mais tu me niaises. Donc,
alors, les chiens de traîneau, c'est un article que j'ai trouvé dans le TV Hebdo l'hiver dernier, un article de Jean-Philippe Lepage, très intéressant. Les chiens de traîneau, des compagnons fidèles et endurants. Selon la science, des humains faisaient déjà l'élevage de chiens pour tirer des charges il y a un peu plus de, risqueriez-vous un nombre d'années? Soyez généreux, dans les milliers d'années. Là.
Ah ouais?
Ah oui, oui, oui.
30.
Oui, oui.
30
bon, Mathieu dit 30, moi je vais dire 40.
Non, non, vous êtes trop haut là, quand même. Là. Okay. Soyez, revenez.
OK, ben OK, on va aller à 2000 ans. Isabelle?
J'ai dit
3. Entre les deux. C'est 10 000 ans à peu près.
10 000 ans.
10 000 ans, oui. Ah. Apprenons à connaître un peu plus les 4 races de chiens les plus utilisées pour ce qui est aujourd'hui devenu au Québec un loisir et une attraction touristique des plus prisées. Les races les plus populaires. Initialement utilisées par les peuples autochtones pour le transport et la chasse en Arctique, le traîneau à chiens a rapidement été adopté par les premiers trappeurs canadiens-français, car il constituait le moyen le plus efficace pour transporter des marchandises sur un terrain couvert de neige. De nombreuses races ont été sélectionnées puis élevées au fil du temps. Celles qu'on retrouve le plus couramment aujourd'hui sont le Malamute d'Alaska, le Husky de Sibérie, le Husky d'Alaska et l'Eskimo canadien. Mmh. Elles sont les quatre races. Ces chiens ont des caractéristiques et des traits de caractère similaires. On leur attribue par exemple une silhouette puissante, une fourrure protectrice et un caractère affirmé. Ils ont des bons caractères, ces toutous-là.
Ah oui?
Oui. Ben, des bons caractères de sens très affirmés. Là.
Oui.
Ouais. Ils sont bien adaptés au froid aussi. Les chiens nordiques ont évolué pour mieux s'adapter aux conditions climatiques et peuvent résister à des températures, imaginez-vous, allant jusqu'à moins 40 degrés centigrades.
Vraiment?
Aïe, aïe, oui, ouais. Oui, oui. La plupart ont un double pelage. C'est curieux, hein? Le pelage extérieur éloigne la neige du corps et le pelage intérieur, imperméable, sert d'isolant.
Mais il y a beaucoup de races de chiens qui ont ça, le double pelage, oui.
D'ailleurs, par temps chaud, ces chiens peuvent avoir des problèmes de régulation de la température corporelle et surchauffer. Leur longue queue touffue leur sert à protéger leur nez et leurs pattes du gel lorsqu'ils sont recroquevillés pour dormir. On voit ça souvent dans les...
Oui, ils dorment en boule.
Quand
là.
Les poules, ouais, ouais. Dans les, quand il y a une pause, un arrêt pour la nuit, on les voit coucher en rond, là, puis ils sont... Les chiens de traîneau ne maintiennent pas la température de leurs pattes à 37 degrés centigrades, car en plus de gaspiller de la chaleur, cela ferait faire fondre la neige, mouillerait leur pelage et augmenterait les risques d'engelure. La température cutanée de leurs pattes et de leurs museaux s'abaisse à près de 0 degré centigrade.
Vraiment?
Oui, et est régulée avec précision par des échanges thermiques dans leur vaisseau sanguin. Toute une mécanique. Ouais. La chaleur est ainsi court-circuitée, mais l'oxygénation des muscles est préservée. Ces muscles et leurs nerfs peuvent ainsi fonctionner à des températures très basses. Des bêtes résistantes et rapides. Les chiens de traîneau sont très énergiques et endurants. Ils peuvent parcourir de longues distances, dépassant parfois les 100 km par jour. C'est quelque chose, hein? C'est une course, une méchante course. En contexte récréatif, ils tirent leur traîneau à un rythme de 16 à 32 km heure, mais lors de compétition, ils peuvent atteindre les 40 km heure.
Des athlètes, hein?
Oui, absolument, oui.
Ouais.
Un chien commence à tirer entre 6 mois et 2 ans. Mais il doit avoir terminé sa croissance avant de commencer toute traction lourde ou de longue durée. C'est compréhensible, d'ailleurs. Le chef de la meute, important. Comme leurs ancêtres loups, les chiens de traîneau restent avant tout des chiens de meute. Cette organisation sociale leur est naturelle et une hiérarchie s'établit rapidement au sein du groupe. Importante et bénéfique pour les chiens, la meute participe à leur équilibre et limite les risques de conflits qui pourraient mener à des blessures. C'est le caractère dominant qui détermine le chef de la meute. Un chien puissant et intimidant ne manifestera pas nécessairement l'envie de grimper dans la hiérarchie, alors qu'un plus petit, mais plus nerveux, pourrait vouloir s'imposer à tout prix. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Vous avez des.
Mais mon chien est un petit chien, là.
C'est ça.
Il fait.
Mais là, avec un labrador, puis il peut. Le labrador. Il
mon
va
chien
l'asseoir.
Est le boss de l'univers.
C'est ça, exactement.
Il gère les gros chiens.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Athlète l'hiver comme l'été. On peut penser que, comme ils travaillent très fort durant l'hiver, les chiens de traîneau sont en vacances durant l'été. Mais c'est faux. En dehors de la saison hivernale, comme pour un athlète hors saison de compétition, un chien d'attelage a besoin d'une période de récupération et de maintien des acquis. L'entraînement au harnais et la course en liberté lui permettent de rester en forme, en santé et heureux, tout comme les activités estivales telles que le canicross, la canitrottinette, le bike joring et le canicart. Parfois victime de maltraitance, ça c'est triste. Pour un chien d'attelage, tirer un traîneau répond généralement à un besoin instinctif de chasse, de déplacement, de poursuite et de découverte. Le traîneau à chien est une activité hivernale populaire au Québec. Selon la SPCA, la province compte plus de 130 établissements qui font travailler au moins 5000 chiens. C'est une industrie. Une cinquantaine d'établissements compterait plus de 50 chiens, ce qui entraîne des risques de négligence, et il est impossible d'accorder une attention suffisante à tous ces chiens, et certains pourraient ne pas recevoir les soins adéquats. Maintenant, des rôles importants au cours de l'histoire. Lors de la ruée vers l'or du Klondike, à la fin du 19e siècle, des centaines de chiens de traîneau transportaient tout, des prospecteurs aux fournitures en passant par l'or et le courrier. Et lors de son expédition au pôle Sud en 1911, Ronald Amundsen utilise des chiens de traîneau, une technique que le grand explorateur norvégien avait apprise auprès des Inuits lors de son exploration du passage du Nord-Ouest quelques années plus tôt. Durant la Première Guerre mondiale, plus de 400 chiens de traîneau de l'Alaska et du Grand Nord canadien ont été utilisés pour ravitailler les soldats du front des Vosges dans les Alpes françaises. Mmh. Et en 1925, 20 équipes de chiens de traîneau ont sauvé Nome, un village d'Alaska, d'une épidémie de diphtérie en parcourant près de 1120 km en 6 jours pour transporter une caisse de sérum qui ne pouvait être envoyée par avion. L'événement a été baptisé la Grande Course de la Miséricorde. C'est beau.
Wow. Oui, c'est vraiment beau.
Mm-hmm. Alors, hein, on est parti des hommes des cavernes aux chiens. on a à peu près 40 secondes, une petite brève rapidement.
Non, mon Dieu.
Non, t'en as plus?
Non, ben, j'ai tout passé, mes brèves.
Il n'y a pas de problème. Hey, merci beaucoup à tous les deux, Isabelle et Serge, d'avoir été avec nous ce matin.
C'est un plaisir.
À la semaine prochaine. Bye-bye.
Seul, j'ai toujours voulu affronter la peur. J'ai voulu rester forte et pas m'y faire. Mais pourquoi aujourd'hui je veux me taire? Parce qu'on m'a toujours dit de ne pas déplaire. Garder tout bas ce que j'ai à l'intérieur. Jurer de ne pas montrer tout mon meilleur. Quand je suis trop petite dans ce grand univers. Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs. Je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable, je verrai à ce qu'on me trouve qu'il y a de la douceur. Dis-moi comment j'ai pu arriver jusqu'ici. Dans ma tête, y'a pas de place, j'en paye le prix. J'ai attendu toute ma vie qu'on me dise oui. Je veux pas fermer ma gueule et laisser les paris. Gagner sur moi et briser tout ce que j'accomplis. Si tu veux me taire, c'est parce que tu n'as pas compris. L'égalité, c'est beaucoup plus que des moqueries. Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs. Je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable. Je verrai à ce qu'on trouve que de la douceur. Et pourquoi pleurer? Laissez-moi être et crier ma voix. Je veux seulement trouver ma foi. Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur, même si la fille en moi se sent minable.
La chanson minable de Catherine Sans Regret.
La scène musicale montréalaise est reconnue pour sa créativité, mais elle ne serait rien sans des organismes dédiés à la relève. Aujourd'hui, nous recevons l'une des figures de cette vitalité. Anne Laurence est directrice artistique de l'organisme Code d'accès qui souffle cette année ses 40 bougies en supportant la relève musicale. Anne, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, 40 ans, mais je suis certain que ça, c'est... vous n'avez pas cet âge-là, vous.
Non.
Là. Alors, Code d'accès existe depuis 40 ans. En quelques mots, c'est quoi la mission fondamentale de votre organisme?
On est un organisme à but non lucratif et notre mission, c'est de soutenir les artistes de la relève en musique expérimentale, contemporaine et en sonore. Électronique.
Alors, comment cette diversité de pratiques musicales y est-elle intégrée? Là? Comment on fait ça?
Donc, nous, en fait, c'est peut-être plus facile d'y aller à l'envers. Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? En fait, on ne soutient pas ce qui est musique commerciale, en fait.
OK.
Donc, on va vraiment soutenir des pratiques expérimentales, alternatives, dont la démarche est vraiment d'essayer de nouvelles choses ou de de vraiment essayer des nouveaux outils technologiques ou essayer des nouvelles, des textures de musique ou d'instruments. Donc, on présente toutes sortes de types d'instruments. Donc, c'est ça. Des fois, on a de la musique électronique. Des fois, on a de la musique instrumentale. Des fois, c'est un peu les deux. Des fois, c'est plus proche de l'art sonore, la performance. On est ouvert aussi à la multidisciplinarité, pardon. Ouais. Donc, c'est vraiment le fond de la démarche artistique qui nous intéresse chez les artistes.
Souvent, ce sont des artistes qui ont très peu l'occasion de performer parce que c'est toujours compliqué d'avoir des salles et tout ça. Donc, vous remplissez un rôle important, là.
Oui. Donc, souvent, ben, nos artistes, c'est des artistes, justement, qui sont jeunes ou plus vieux, mais de la relève quand même. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un appel à projet deux fois par année. On a aussi d'autres appels, par exemple, à résidence, en partenariat avec le Centre Prime ou avec d'autres organismes. Mais principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille des candidatures d'artistes. Donc, c'est eux qui vont venir vers nous. Nous, on fait de la promotion, évidemment, auprès des groupes qui peuvent être intéressés, mais aussi en dehors pour recruter des propositions originales. Et après ça, on fait une sélection et on voit par rapport justement à la démarche, aussi à l'impact d'une opportunité de diffusion chez l'artiste. Donc, si l'artiste est très largement diffusé déjà, bien, on va dire, bon, il y a un bon impact, c'est peut-être moins une bonne candidature. Nous, c'est vraiment, notre mission, c'est vraiment de donner un tremplin, donner une visibilité aux artistes. Et ensuite, dépendamment de quel genre de musique ou de quel genre d'équipement ils ont besoin sur la scène, donc moi, je regroupe les différents projets dans un spectacle.
Puis il y a différentes disciplines. On a mentionné la musique, il y a aussi la danse, la performance aussi qui fait partie de ça.
Oui, nous, on est vraiment centré musique, donc il faut vraiment qu'il y ait une composante musicale en premier. Mais on a eu, par exemple, l'année passée, on a eu une collaboration avec l'Espace Ouvert, qui est un organisme qui est un peu parallèle dans sa mission, mais pour les artistes de danse, de mouvement, donc il y avait des artistes de cirque. C'est tous des artistes de la relève, donc ils sont là pour expérimenter le processus, c'est vraiment axé sur la démarche d'essayer de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment analogue à ce que nous, on fait en musique. Donc, j'aurais proposé de faire une collaboration, de choisir de notre côté, en fait, quelques artistes qui sont venus à nous et de les proposer pour faire une collaboration avec eux pour la musique. Et ensuite, moi, je les jumelais dépendamment de qu'est-ce que des forces de chaque compositeur, compositrice avec les artistes de danse, de cirque, de mouvement. Ça s'est très bien passé. Donc, tous les artistes m'ont dit qu'on devrait recommencer ça. Donc, c'est dans les... pas pour cette année, mais probablement pour les années qui s'en viennent.
Je reviens à la musique, puis j'ai une petite question comme ça. On parle d'expérimentation, de toutes sortes d'instruments. L'intelligence artificielle fait-elle partie de ces instruments-là qu'on peut utiliser?
Il y a certains artistes qui vont l'utiliser, mais on n'a pas encore... c'est pas quelque chose qui est largement encore inscrit dans la pratique des artistes qu'on présente en ce moment. Mais c'est sûr que ça va éventuellement s'en venir. C'est plus utilisé, de ce que j'ai vu à date, c'est comme un outil, vraiment pas nécessairement comme un... pour créer de la matière, mais par exemple pour...
C'est très limité. Oui, c'est... Moi, je l'utilise aussi, puis je trouve que c'est très limité. Parce que souvent, ça s'inspire de ce qui existe déjà.
Exactement, c'est ça.
L'intelligence artificielle n'invente pas. Écoute, on va parler de votre concert qui s'intitule « Troubles et méandres ». Ça aura lieu le 15 novembre. Qu'est-ce qui a inspiré un titre aussi intriguant que ça?
En fait, moi, je regroupe justement, comme je disais, les projets des artistes selon non seulement leurs besoins techniques, leur disponibilité, mais aussi un peu l'atmosphère que le projet donne. Et c'est toutes des atmosphères qui sont un peu, justement, un peu, pas nécessairement troubles dans le mauvais sens, mais un peu, justement, comme mystérieuses. On va utiliser des instruments d'une manière qu'on ne s'y attend pas. Par exemple, la première pièce, ça va être un quintet de consoles sans entrée. Donc, il n'y aura pas... C'est des consoles de mixage, là, normal, et il n'y aura pas de son qui rentre dans la console. Donc, ça, c'est vraiment avec tout ce qui est le feedback, les sons internes de l'instrument. On a aussi des artistes qui vont jouer avec le visuel. On a un artiste qui a un instrument en forme de cercle qui est lumineux. Donc, ça va être probablement dans le noir. Et on va comme pas nécessairement voir tout ce qui se passe avec l'instrument, mais on va voir les parties lumineuses. Donc, je trouvais que c'était justement trouble et méandre, voilà.
Trouble et méandre. En fait, c'est quoi l'ambiance générale qu'on essaie de faire avec ça? J'ai une bonne idée, là, en vous entendant, là, ouais.
Oui. Donc, c'est vraiment une ambiance de curiosité. Donc, on va là. Nous, les concerts, justement, qu'on présente, c'est toujours des concerts où on stimule la curiosité du public. Donc, on présente des projets d'artistes qui sont innovateurs, innovatrices, qui vont essayer des choses qui ne se font pas nécessairement dans des spectacles grand public. Donc, c'est des expériences surprenantes même des gens du public on a toujours une période de discussion à la fin de nos concerts, à peu près 10-15 minutes. C'est très informel, juste pour que le public ait la chance de poser des questions, parce que justement, c'est des concerts qui vont stimuler beaucoup la curiosité, l'imaginaire du public. Et on a souvent du public qui ne sont pas vraiment habitués de voir de la musique expérimentale, puis il y a toujours une très grande appréciation. Donc, pour moi, ça me fait vraiment plaisir de voir cette appréciation-là. Les gens posent des questions, ils ne comprennent pas comment tel son se fait ou quelle a été la démarche, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas justement dans le grand public.
Donc, c'est l'occasion. On parle de grand public, mais finalement, un peu tout le monde peut aller voir puis expérimenter. On peut aimer ou ne pas aimer. Mm-hmm. Ça fait partie aussi de l'art.
Oui.
Et il y a une période de discussion. Vraiment, ça, c'est vraiment le fun d'avoir la chance d'échanger avec les artistes. Oui. Et les artistes, comment ils vivent ça?
Pour eux, c'est toujours vraiment intéressant, parce que c'est vraiment leur projet. T'sais, c'est comme un peu leur bébé. Ils ont travaillé fort sur ces projets-là, puis de pouvoir les présenter devant le public avec une rémunération qui est vraiment de très proche de celle de la guilde des musiciens et musiciennes du Québec, et aussi d'avoir un retour du public. Ça, c'est super important. Donc après, justement, nous, on a un petit organisme. Les artistes, souvent les salles, c'est des salles à jauge petite, moyenne. Donc les artistes restent dans la salle après. Donc les gens, ils peuvent aller leur parler, ils peuvent aller les féliciter, ils peuvent leur poser des questions. Donc il y a vraiment une interaction vraiment organique qui se fait avec le public. Puis évidemment, nous, l'équipe de Code d'accès, on est là aussi pour répondre aux questions.
Anne, vous avez mentionné tout à l'heure, Code d'accès fait aussi travaille avec Prime. Prime, qu'est-ce que c'est déjà?
Le centre Prime, c'est un centre qui est proche du Métro Fontan, qui sont vraiment plus dédiés au cinéma, à l'art vidéo, mais ils ont un studio multi haut-parleur.
Oui.
Ce qu'ils ont proposé à Code d'accès, c'est à chaque année d'avoir un appel à résidence. Donc,
oui, cette année, c'est Bénédicte et Amélia.
Bénédicte était en 2024, Amélia était en 2025.
Puis là, on parle, parce qu'elles vont être présentées dans le prochain concert, on parle donc de paysages aquatiques et d'influences afro-futuristes. Oui. Parlons-nous tout ça rapidement.
Donc, Bénédicte a fait sa résidence en 2023 et est allée prendre des sons aquatiques. Honnêtement, je ne me rappelle plus où, mais je pense que c'est dans le Bas-Saint-Laurent.
Ouais.
Donc, elle est allée faire de l'échantillonnage, finalement, puis est revenue pour faire son mixage, en fait, le mixage de la pièce chez Prime, avec justement cette configuration multi-haut-parleur. Le thème, finalement, de sa pièce, c'est vraiment d'essayer de mettre en son des mémoires, des souvenirs par rapport à l'eau.
Oui.
Donc, oui.
Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y avait aussi Amélia.
Oui, Amélia. Oui. Donc, Amélia, j'ai pas encore entendu sa pièce, parce qu'elle, ça fait pas longtemps qu'elle l'a terminée, mais c'est une pièce qui mélange aussi l'art visuel. Donc, il va y avoir de la poésie aussi. Donc, je sais pas honnêtement encore de quoi ça a l'air. Ça va être une surprise pour moi aussi. Moi, des fois, justement, j'entends pas toujours, parce que des fois, les pièces sont très nouvelles.
C'est le fun quand la directrice artistique est surprise aussi.
Oui, exactement. Oui. C'est le fun, parce que justement, des fois, on prend des risques comme ça, puis la pièce a été finie il y a peut-être 2 semaines.
Wow.
Donc, j'ai pas eu l'occasion de l'entendre, surtout pas dans une salle.
Bien, Anne Laurence, directrice artistique de Côte d'Accès. Je rappelle donc que Troubles et méandres s'est présenté le 15 novembre. Où déjà?
À l'espace Wilder, proche, juste en face du métro Place des Arts.
Oui, maintenant qu'on a le métro, on va être content de pouvoir y aller. Mm-hmm. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci
beaucoup. Merci. Alors nous, on va continuer dans la prochaine partie d'émission. Nous allons prendre des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. Je rappelle tout le monde qu'aujourd'hui, bien, c'est encore de la neige intermittente et de la pluie partout au Québec, en Ontario, même dans l'Atlantique. Il y a du soleil dans l'Ouest. Alors, si vous devez conduire et que vous n'avez pas vos pneus d'hiver, soyez prudents. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté. À tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. À nos actes manqués, aux années perdues à tenter de ressembler à tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ses douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que l'on trop fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Oh, 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 à mes actes manqués. Visage et dentelle croisées, juste frôlées, aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer, à tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, à tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, aux peurs impossibles à échanger. Oh, 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 à nos actes manqués.
C'est le temps maintenant de faire le tour du Canada francophone avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Salut Julien.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on s'en va parler de l'immigration francophone qui fait face à des défis systémiques selon Franco-Presse, justement.
Oui, on a écouté une présentation de l'Observatoire de l'immigration francophone au Canada qui, de son côté, a mené une enquête auprès de personnes immigrantes francophones nouvellement arrivées au pays. Ce questionnaire-là a été distribué au printemps. Puis, bon, l'échantillon est assez petit, mais ils sont quand même capables d'extraire certaines données de cette première phase de l'enquête-là. Puis, ils ont trouvé qu'il y a 5 grandes barrières systémiques, donc reliées à la façon que le système fonctionne, à l'immigration francophone. C'est surtout des barrières linguistiques, administratives, juridiques, financières et aussi liées à la reconnaissance professionnelle qu'ils avaient dans leur pays. Par exemple, il y a seulement 72 % des répondants qui ont indiqué avoir reçu des services en français lors de leur processus d'immigration, là, donc quand ils étaient encore dans leur pays et qui essayaient de remplir leur demande. Il y a environ 54 %, donc un petit peu plus que la moitié, qui ont passé plus de 6 mois à récolter de l'information, des documents pour leur demande. Puis encore là, pas loin de la moitié, mais 44 % ont attendu 6 mois ou plus pour obtenir une réponse. Donc, c'est beaucoup de temps à passer pour faire ça, ce qui peut être un peu décourageant. Il faut vraiment être convaincu. Ce qu'ils constatent en partie, c'est que toutes ces barrières-là sont, oui, difficiles individuellement, mais quand elles s'accumulent, qu'elles s'entrecroisent pour différentes raisons, bien, ça complique encore plus le processus. C'est pas la fin de l'étude. Il y a une deuxième phase qui va être lancée très bientôt là, pour approfondir certaines de ces données-là.
On s'en va en Nouvelle-Écosse maintenant. Les obstacles à l'éducation en français est dénoncé par le Conseil scolaire francophone de la Nouvelle-Écosse. Ça vient du courrier, justement, de la Nouvelle-Écosse.
Oui, le Conseil scolaire acadien provincial a récemment publié un rapport sur l'état de l'éducation en français dans cette province-là. Puis une des données qui ressort, c'est qu'on trouve que le nombre d'élèves qui fréquentent les écoles en francophone par rapport à ce qui est potentiellement possible et une grande différence entre les deux. C'est qu'il y aurait environ 25 000 enfants qui seraient admissibles aux écoles francophones de la Nouvelle-Écosse, mais le conseil en accueille seulement 6 700. Donc, c'est une petite tranche de ce nombre d'élèves qui auraient le droit. Avoir plus d'élèves, ça pourrait résoudre quelques-uns de leurs problèmes. Par exemple, il y a des gros défis. Un des gros défis soulignés dans le rapport, c'est la distance et le temps de déplacement pour aller à l'école. Selon les règles, les élèves ne doivent pas se déplacer plus qu'une heure le matin et une heure l'après-midi, quand même déjà beaucoup. Mais si on vit loin comme ça de l'école, bien, ça peut décourager la participation aux activités parascolaires parce que bon, les parents ne peuvent pas aller nous chercher si loin que ça, si on n'a pas pris le transport scolaire, etc. Et on sait que participer à des activités parascolaires en français, ça aide à intégrer davantage la langue, là, puis que ça devient autre chose qu'une langue d'éducation.
Tout à fait.
De l'autre côté, les écoles francophones des grandes villes, comme Halifax, sont surpeuplées. Il y a trop de jeunes pour la taille des écoles. Et qu'on cherche, ce qu'aimerait avoir le conseil scolaire, c'est une formule de financement différente de celle des conseils francophones parce que les besoins sont différents, là, comme on vient de l'expliquer un peu. Les écoles, sont surtout celles de quartiers, de régions, sont plus petites. Il y a donc moins d'économies d'échelle à faire, donc on ne peut pas calculer les choses de la même façon. Qu'à partir de ce rapport-là, ce que fait le conseil scolaire, c'est de s'asseoir avec le gouvernement pour justement discuter un peu des solutions.
On va aller au Nouveau-Brunswick qui va réviser sa loi sur les langues officielles selon l'Acadie Nouvelle.
Le gouvernement a décidé de lancer ce processus de révision-là. C'est un comité qui va se baser sur, en fait, un rapport qui a été fait en 2021 et qui comportait déjà plusieurs recommandations. Mais il y en a peut-être qui s'en rappelleront, mais quand ce rapport-là est sorti en 2021, le premier ministre de l'époque, Blaine Higgs, l'avait presque totalement ignoré. Il n'en avait pas tenu compte. Il avait appliqué, je crois, aucune des recommandations. Fait que le nouveau comité va tout simplement partir de là. Il devrait remettre son propre rapport en 2026. On souligne que le rapport de 2021 suggérait de réviser la loi plus souvent, c'est-à-dire tous les 5 ans. Ça va revenir à ça, pour être d'accord avec cette étude-là. Là. Donc, 5 ans plus tard, on a une nouvelle évaluation de la loi. On suggérait aussi dans le temps de créer un ministère du linguisme ou de la langue française. Ça n'a pas été fait, il y avait seulement un secrétariat. En ce moment, c'est la première ministre, Susan Holt, qui est responsable des langues officielles. De fonder des associations francophones et même des partis d'opposition au Nouveau-Brunswick. On est très content de cette nouvelle-là.
Je me permets un aparté dans ce qu'on avait prévu, mais je sais qu'il y a aussi eu la nomination par Justin Trudeau, l'ancien premier ministre du Canada, d'un gouverneur unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick. Ça a soulevé un tollé et c'est devant la Cour suprême, hein, d'ailleurs. Il y a eu la nomination de Louise Imbeau depuis ce temps-là, mais c'est devant la Cour suprême à savoir si ces postes-là ne devront pas être aussi tenus par des personnes qui parlent les deux langues officielles. Là, c'est intéressant.
Oui. Ouais. Effectivement, ça va être entendu demain. On va falloir attendre quelques semaines pour un jugement là-dessus.
Tout à fait. Alors, excuse-moi, j'ai sorti du sujet, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Il y a une foire de l'emploi bilingue qui est très courue. C'est l'Express de Toronto qui en parle aujourd'hui.
Que de leur côté, le journal Le Droit, là, dans les mêmes dates, nous informait que selon des données de Statistique Canada, Ottawa a surpassé Toronto comme ville préférée des immigrants francophones au Canada, à l'extérieur du Québec. De son côté, l'Express nous parle que c'est difficile de se trouver un emploi en français à Toronto. La semaine dernière, il y a eu une foire d'emploi bilingue qui était organisée par le Centre francophone de Toronto. L'événement a connu une participation record, là, parce que c'était pas le premier. Les inscriptions en ligne ont dû être stoppées, bloquées, parce qu'à un moment donné, ils ont atteint 1500 personnes, puis leur lieu avait pas plus de place, pas de place pour plus de gens que ça. Puis à l'ouverture des portes, il y avait déjà 200 personnes qui attendaient pour rentrer. Mmh. Ils se sont assez rapidement devant certains kiosques. Que les organisateurs disent, ils sont pas vraiment surpris. Actuellement, le chômage à Toronto est de 9,5%, qui est supérieur à la moyenne de l'Ontario et du Canada. Là, on a eu des nouvelles la semaine dernière qui était autour de 6%. Parmi les chômeurs, les francophones unilingues sont une minorité dans la minorité à Toronto. Donc, ils rencontrent encore plus de difficultés pour se trouver un emploi.
Et puis, c'est pas facile de poursuivre son engagement dans la francophonie en tant qu'adulte. C'est ce que rapporte le Franco de l'Alberta.
Alors, vous en avez parlé un peu il y a quelques semaines autour d'une entreprise francophone qui avait fermé à Ottawa, qui travaillait sur la construction identitaire. Mais là, l'Association canadienne française de l'Alberta poursuit cette réflexion-là lors d'un panel qui a eu lieu pendant son assemblée générale annuelle en octobre. Il y a trois panélistes qui avaient des parcours et des visions différentes. Il y avait entre autres Yvette Yakipongé qui offre une piste de solution, c'est-à-dire pour que les jeunes puissent continuer à s'intégrer jusqu'à l'âge adulte. Puis sa solution, c'est de commencer très jeune. Elle dit que dès 8 ans, elle faisait du bénévolat en français, puis ça n'a pas été difficile de rester engagée quand elle a terminé son secondaire. De l'autre côté, il y avait Adam Brown qui lui a fait son éducation dans le système d'immersion. Il souligne que oui, dans ce système-là, il y a moins d'occasions de connaître et de connecter avec la culture francophone, parce que ce n'est pas nécessairement le but du programme. C'est en arrivant au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta qui a pu découvrir la communauté et la culture francophone de l'Alberta. Ça lui a permis de se créer des connexions et des amis, puis d'intégrer la communauté francophone. Et aujourd'hui, il en fait partie, puis il travaille là-dedans. Il fait aussi remarquer que l'impression de certaines personnes, des jeunes de l'immersion, mais il peut en avoir d'autres aussi, que leur français n'est pas assez bon, ça peut être une barrière à intégrer la communauté francophone. Enfin, il y a une enseignante, Ladan Sultan, qui enseigne à Fort McMurray, qui affirme que de rester connecté à la francophonie dans les enfants comme Melanie Calgary ou d'autres écoles, ça peut être un peu plus facile à plus d'organismes.
Oui, on a un petit problème de communication. Là, je vais juste reprendre. On parlait de Ladan Sultan, qui est enseignante à Fort McMurray, qui dit que c'est plus facile dans les grandes villes que dans les petites villes, c'est ça?
C'est ça, exactement. Parce que dans les grandes villes, il y a un organisme qui travaille dans ce sens-là. Dans les petites villes, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de gens, il y a moins d'organismes. Donc, les francophones de la place et les enseignants, entre autres. C'est ce qui est un peu plus pour que les jeunes restent engagés et se connectent à la langue française.
Oui, alors Julien, je vais vous demander de rester où vous êtes parce que là, la communication est bonne, on a des petits problèmes. On termine avec la rencontre pan-territoriale sur l'éducation postsecondaire en français qui nous vient de l'Aurore boréale.
J'en ai déjà touché un mot l'année dernière, c'est que le travail se poursuit pour l'élaboration d'un système d'éducation postsecondaire en français dans les trois territoires canadiens. Cette fois-ci, c'est le Collège nordique des territoires du Nord-Ouest et l'Association franco-yukonaise qui se sont rendus au Nunavut pour rencontrer les gens de l'Association des francophones du Nunavut pour, bon, et oui, découvrir les particularités de ce territoire-là pour les francophones, mais aussi poursuivre les discussions sur la forme que pourrait prendre leur collaboration. Puis, ce serait une collaboration unique en son genre parce qu'il n'y a pas d'autres établissements postsecondaires au Canada qui a vraiment... il y a des collaborations en province, parfois, mais il n'y en a pas un qui couvre plus qu'une province ou un territoire. Donc, les trois travaillent là-dessus de façon acharnée. Là, et on dit qu'on est rendu à l'étape où la prochaine étape, ça va être de présenter des modèles qui pourraient être mis en place.
Bien, Julien Caillouette, qu'on rejoint donc à Franco-Presse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
La chanson Monstre de Grand Eugène, et juste avant Julien, on entendait Jean-Jacques Goldman à nos actes manqués.
Alors, dans le Média en Beauce du 11 novembre, l'histoire de Jonathan Coulombe, qui a été victime d'un grave traumatisme crânien, met en lumière la force nécessaire pour se révéler après un événement qui bouleverse tout un quotidien. Pour Jonathan Coulombe, le traumatisme crânien a marqué le début d'une lutte longue et épuisante. Son parcours pour revivre après l'accident a impliqué des mois d'efforts intenses pour réapprendre des fonctions physiques et cognitives, illustrant l'ampleur des défis que représente la réadaptation. Il a dû littéralement reconstruire sa vie. Son histoire est d'une importance capitale car elle permet de mieux comprendre les réalités et les séquelles invisibles laissées par un traumatisme crânien. Loin de s'apitoyer, Jonathan Coulombe a choisi de partager ce cheminement difficile pour inspirer les autres. Son message, avec une détermination inébranlable et le soutien de ses proches, il est possible de surmonter les obstacles majeurs et de retrouver son chemin vers une autonomie et de l'espoir. Un témoignage puissant donc de résilience humaine. Dans le Journal de Montréal du 10 novembre, une nouvelle étude apporte un espoir simple et accessible dans la lutte contre le déclin cognitif. La marche quotidienne pourrait ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Mais Mathieu, tu marches beaucoup, tu n'en auras pas d'Alzheimer.
Oui, il faut se souvenir qu'on a marché le matin, mais oui.
Oui. Alors, des chercheurs de l'hôpital Mass General Brigham de Boston ont découvert que l'activité physique et la santé cérébrale sont intrinsèquement liées. Selon les résultats, les aînés qui marchent 3000 pas ou plus par jour bénéficient déjà d'un effet protecteur significatif. Les résultats sont particulièrement impressionnants chez les participants qui faisaient entre 5000 et 7000 pas quotidiennement, qui ont vu leur déclin cognitif retardé d'environ 7 ans en moyenne. Les auteurs de l'étude encouragent donc les personnes à risque de démence à bouger davantage. Même l'ajout de quelques minutes de marche à la routine quotidienne serait suffisant pour aider à protéger le cerveau et garder l'esprit vif plus longtemps. Mais quand il fait froid aussi, ça garde pas mal les choses vives. Dans un communiqué, le sort des détenus ayant des besoins urgents en santé mentale dans les prisons fédérales font l'objet de vives dénonciations. Dans son rapport annuel, l'enquêteur correctionnel du Canada dénonce publiquement ce qu'il qualifie d'entreposage de patients dans ces établissements. L'enquêteur souligne que le Service correctionnel du Canada n'est pas équipé pour traiter adéquatement la maladie mentale grave, transformant les prisons en lieux de confinement inappropriés pour ces individus vulnérables. Cette situation soulève de graves questions sur le respect des droits humains et des droits de la santé et des soins de santé, au sein du système carcéral ou pénal canadien. L'enquêteur réclame des mesures immédiates pour que ses patients reçoivent des soins adaptés dans un cadre thérapeutique plutôt que d'être maintenus en détention dans ces conditions.
Jusqu'ici pour se faire engueuler, on n'est pas venu jusqu'ici pour se faire chier. On se disait justement que la vie c'est décevant, que tout s'éteint usé par le poids du temps. Si t'es du genre à juger ceux qui crient la liberté, à juger les gens qui savent s'amuser. Pas de problème avec nous, t'as qu'à dire et on s'en fout, on va s'en aller où le ciel est plus doux. Désolé mes frères, à nous inviter. Désolé mes frères, à nous inviter. Se justifier, on ne cherche surtout pas la vérité. Il y a un milliard de couleurs, autant de parfums de fleurs qu'on est libre ou pas d'aimer et d'apprécier. Si t'es du genre à juger ceux qui crient la liberté, à juger les gens qui savent s'amuser. Pas de problème avec nous, t'as qu'à dire et on s'en fout, on va s'en aller où le ciel est plus doux. Désolé mes frères, pas nous inviter. Désolé mes frères. We'll be right back.
qui veulent larguer la vie, la mort et le temps qui passe. On veut pas tous faire la gueule, heureusement y'en a qui veulent faire la fête de Montréal à Montparnasse. On veut pas tous faire la gueule, heureusement y'en a qui veulent larguer la vie, la mort et le temps qui passe. On veut pas tous faire la gueule, heureusement y'en a qui veulent faire la fête de Montréal à Montparnasse. On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire engueuler, on n'est pas venu jusqu'ici pour se faire chier. On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire engueuler, on n'est pas venu jusqu'ici pour se faire chier. On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire engueuler.
Fallait pas nous inviter, une chanson de Pierre Lapointe et de Voyou.
Je ne l'ai pas mentionné en début d'émission, mais je vais le faire maintenant. C'est le 12 novembre aujourd'hui, 316e jour de l'année, et il reste 49 jours à l'année, donc d'ici le bye-bye à peu près, et 42 jours avant Noël, ou 41 selon le cas, si on fait le réveillon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Devoir ce matin a un article intéressant sur l'inflation et le coût de la vie qui viennent plomber l'ambiance des fêtes pour de nombreux ménages canadiens. Un nouveau sondage du cabinet d'insolvabilité Harris & Partners révèle que la majorité des Canadiens se préparent à un Noël beaucoup plus modeste cette année. Viens à chien, Donalda. Près de 72 % des Canadiens et Canadiennes interrogés affirment qu'ils devront réduire leurs dépenses pour la période des fêtes. Une écrasante majorité de 85 % prévoit se fixer un budget strict. Je fais ça chaque année, mais je le défonce pareil. Bon, alors, cette prudence est liée à un sentiment d'insécurité financière. 62 % des répondants et répondantes disent ne pas se sentir prêts financièrement pour les fêtes et plus de la moitié avouent même craindre de ne pas pouvoir les financer. Les experts soulignent que pour beaucoup de personnes, ben, la gestion budgétaire se fait de mois en mois et c'est devenu la norme et que ça laisse peu de marge de manœuvre pour épargner en vue de cette période de l'année. Et puis, je rappelle donc la première bordée de neige au Québec. Hein, quand même, il y a encore des dizaines de milliers de foyers là, à l'heure de notre diffusion, qui, première diffusion en direct, là, qui sont toujours privés d'électricité. C'est surtout le cas dans les régions du Saguenay et de la Montérégie. Hier, il y avait même des centaines d'écoles qui ont dû fermer. On a reçu jusqu'à 25 cm de neige dans la région de Montréal. C'était quand même assez surprenant pour un 11 novembre, mais ça arrive, c'est comme ça. Alors, j'ai le temps de vous dire un gros merci à l'équipe Mathieu Tessier et Hélène Denis qui ont travaillé à la préparation de cette émission-là avec moi. Je serai là de retour demain, même heure, même poste. Bonne journée!